à la propriété de l'Amazonie, si vous voulez. Des choses qui sont très délicates parce que ce sont des coutumes ancestrales où les paysans ont une propriété commune des biens du sol et du sous-sol. Et ils se sont vus un petit peu spoliés par un certain nombre de décrets-lois pour pouvoir satisfaire le contrat de libre commerce avec les États-Unis. Alors ça, bien sûr, en toile de fond, le conflit avec les États-Unis, c'est ce qui alimente un petit peu tout le ressentiment de ces peuples qui trouvent qu'on en fait plus pour les États-Unis que pour eux-mêmes.
On a l'impression parfois, à lire les médias, que le pouvoir péruvien fait peu de cas justement de ces minorités. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aussi?
En tout cas, il n'a pas fait grand cas au moment de sortir les décrets et les lois qui ont quand même écorné un petit peu les traditions locales. Ces décrets et ces lois ont été faits à la hâte. Tous les experts disent que c'est quand même pas les meilleurs, et en tout cas ils ne respectent pas la grande tradition de l'Amazonie. Alors avec cette première étape de la part du gouvernement qui se dit prêt à réviser ces décrets, les gens disent mais attendez, vous avez fait des choses sans nous consulter et maintenant vous prétendez nous consulter, on voudrait quelques garanties.
En quoi ces traditions ancestrales, justement cette identité indienne, est essentielle au Pérou?
Il n'y a pas de la part des communautés natives un blocage complet sur l'exploitation des ressources, et quelquefois même on est surpris qu'ils acceptent des conditions qu'on n'aurait pas forcément acceptées dans une réflexion sur le milieu ambiant. Mais ce qu'ils veulent, c'est quand même participer à la gestion de ces ressources. Si on se limite aux équilibres écologiques de la nature, là il y a vraiment un travail qui manque à tous les niveaux, y compris chez les natifs. Ils n'ont pas forcément une conception complètement écologique de ces ressources et surtout de l'exploitation, par exemple, de la forêt. Si on pense aux équilibres sociaux, alors là c'est très important aussi parce que on touche à la nature même de ces peuples qui, depuis des siècles, ont une relation avec la création qui est tout à fait différente. C'est pas la propriété individuelle de la terre, sinon c'est une propriété communautaire dont d'ailleurs les bénéfices doivent retomber à toute la communauté. Et ça, on l'a un petit peu oublié. Et je suis surpris quelquefois que les gouvernements ne travaillent pas du tout la question anthropologique. Et on touche très nettement à l'anthropologie, du moins la représentation du monde qu'ont le monde indien dans cette exploitation de leurs richesses.
Quoi consiste le rôle de l'Église catholique au Pérou auprès de ces populations, de ces natifs?
C'est très intéressant parce que justement, l'Église catholique au Pérou n'a pas souvent une très grande unité. Mais cette fois-ci, d'une façon extraordinaire, il y a un communiqué qui est paru il y a à peu près un mois, signé par 5 ou 6 évêques de l'Amazonie. Ils ont sorti un communiqué excellent en implorant vraiment le dialogue, en respectant la création, respectant les personnes, les traditions. Je remarque que dans un panorama d'église où parfois on a pu être déçu, cette fois-ci, je trouve que les évêques ont montré dans un premier temps une excellente démarche d'appel à une réflexion profonde sur l'exploitation et sur la propriété individuelle.
Donc il y a une prise de conscience progressive quand même de ces problématiques plus locales par l'Église, c'est ce que vous nous dites?
Oui, disons, en résumé, les évêques de l'Amazonie ont pu faire une démarche commune, alors que les évêques des Andes, si vous voulez, des régions de la Cordillère, alors que les problèmes sont depuis beaucoup plus longtemps dans les Andes, n'ont toujours pas réussi à avoir un langage commun.
Est-ce que la dignité humaine est aujourd'hui une question qui est à nouveau sur la table quand on parle justement des minorités indiennes au Pérou?
C'est une bonne question parce que précisément c'est sur ce thème de la dignité humaine que l'épiscopat péruvien a beaucoup de mal à avoir une ligne commune. Tous les évêques sont bien sûr convaincus qu'il faut défendre la personne humaine dans toute sa dignité. Ils ont beaucoup de mal à accepter de partager cette responsabilité avec des organisations qui défendent la dignité humaine depuis beaucoup plus plus longtemps, j'allais dire, et de façon beaucoup plus provocante. Même si les organisations catholiques, qui sont, y compris même la Commission épiscopale d'action sociale, travaillent beaucoup dans le sens de la dignité humaine, mais au niveau d'une prise de conscience générale de l'Église avec l'épiscopat, ça n'a pas encore été le cas actuellement.
Vous appelez à ce que l'Église puisse œuvrer sans préjugés, j'allais dire, main dans la main avec des associations de terrain qui œuvrent pour les droits de ces Amérindiens. Il faut que l'Église soit peut-être plus engagée.
Oui, je crois qu'il ne faut pas que l'Église hésite quelquefois à rejoindre certaines organisations de défense des droits de l'homme, parce que ce qui est en jeu, c'est vraiment la personne humaine. Hein. Bon, là, vraiment, il faut que l'Église soit beaucoup plus présente sur ces lieux de conflit pour révéler l'Évangile. On n'a pas encore donné toute la mesure qu'on doit donner, nous, comme pasteurs mais c'est difficile. Hein. Ici, les évêques sont extrêmement exposés parce que s'ils disent quelque chose, eh bien, on va beaucoup les critiquer. S'ils disent rien, on les critique encore plus. Et tous les jours, il y a des problèmes de dignité de l'homme dans ce pays. Hein. Le Pérou a souffert certainement d'une certaine marginalisation dans certaines de ses idées, si bien qu'aujourd'hui, l'Église a du mal à se lancer, à avoir une parole commune. Mais l'exemple des évêques de l'Amazonie, pour moi, est extraordinaire, parce que précisément, rien n'unissait ces évêques et ces prélats pour avoir une parole commune, et ils l'ont eu. Ils l'ont eu parce que précisément, ils ont regardé, ils ont écouté, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas rester silencieux.